Il est 18h05. Tout de suite, vous retrouvez la suite de l'Intégral Tour avec Martial Fernandez.
Merci Gaëtan, l'Intégral Tour avec le sourire. Ce soir, on vous accompagne sur les routes de vos vacances et ça tombe bien parce qu'on a une belle victoire française à vous proposer sur le Tour, celle d'Alexis Vuillermoz au sommet du mur de Bretagne. Cyril Guimard avec nous à 18h20 pour revenir sur cette belle huitième étape. Au sprint aujourd'hui aussi, 18h35, rendez-vous. Le 100 mètres des championnats de France, ils sont qualifiés tous les deux, Jimmy Vico et Christophe Lemaître pour le duel. Et puis des monoplaces électriques autour des Invalides, ce sera à Paris au mois d'avril prochain. La formule électrique arrive et Paris a gagné son Grand Prix. Mais d'abord 18h06 sur RMC, le journal des sports avec Guillaume Laniel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial.
Et donc un Français qui gagne cette huitième étape du Tour de France.
Oui, effectivement, on va retrouver tout de suite sur les routes du Tour de France Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
Une première victoire française, Martial en parlait, grâce à Alexis Vuillermoz, le coureur de la formation AG2R, opportuniste dans le dernier kilomètre, hein, Christophe.
Opportuniste et costaud, très costaud même Alexis Vuillermoz, qui nous vient du VTT, qui a un très beau palmarès en VTT et qui a montré toutes ses capacités aujourd'hui dans cette ascension de mur de Bretagne, 2 kilomètres d'ascension avec de très forts pourcentages au départ. Vuillermoz, dans un premier temps, a réussi à prendre la route de Chris Froome qui avait accéléré en tête de peloton, mais Chris Froome ne voulait pas faire une énorme différence aujourd'hui. On l'attendra surtout dans les Pyrénées à partir de mardi. Les autres leaders ont temporisé et Alexis Vuillermoz a décidé que ça n'allait pas assez vite pour lui. Il est parti sur le côté gauche de la route et plus personne ne l'a revu avant l'arrivée. Alexis Vuillermoz, 27 ans, coureur de la formation AG2R La Montagne, AG2R La Mondiale, qui dispute son deuxième Tour de France, lui qui avait terminé 46e il y a 2 ans et qui avait fait des progrès puisque l'an dernier dans le Giro il avait pris la 11e place. Son surnom c'est Pikachu qui a damé le pion à tous les autres Pokémon de ce peloton. Première victoire d'étape française au classement général. Évidemment Chris Froome reste en tête. À noter tout de même quelques battus aujourd'hui et notamment Vincenzo Nibali, l'Italien, arrivé avec un retard de 10 secondes sur Chris Froome. Autre battu, Thibaut Pinot qui est arrivé avec 15 secondes de retard, ou encore Romain Bardet, coéquipier de Vuillermoz, arrivé avec 21 secondes de retard. Demain, le contre-la-montre par équipe qui risque de bouleverser le classement général.
Merci Christophe. Une première grande étape donc sur un grand tour pour Alexis Vuillermoz. Le Français, vous allez l'écouter, reste conscient de son rôle sur le Tour de France.
C'est vraiment le type d'étape qui me convient. Je ne suis pas sûr qu'en haute montagne je fasse le poids, mais je serai plutôt là pour aider Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault à essayer de rivaliser. Pour ma part, je suis vraiment un grimpeur puncher, donc ce type d'arrivée à fort pourcentage me convient parfaitement. Et la stratégie d'équipe veuille qu'on s'occupe du meilleur coureur. Ce type d'arrivée comme aujourd'hui au mur de 8, c'était moi qui était prévu pour l'arrivée. Et pour d'autres types d'étapes, ce sera d'autres coureurs.
La joie pour Alexis Vuillermoz, mais également pour toute l'équipe AG2R La Mondiale. Écoutez le leader de la formation, Jean-Christophe Perrault, qui ne tarit pas d'éloges au sujet de son coéquipier.
Il est énorme, tout simplement énorme. C'est un des meilleurs punchers du monde. Ça a roulé à bloc, tous les cadors ont pu que se rasseoir et laisser la victoire. Clairement, c'est un puncher de fou. Un peu qui m'impressionne.
Jean-Christophe Perrault au micro RMC de Pierre-Yves Leroux.
Nibali qui perd 10 secondes aussi hein, sur Quintana, Contador et Froome.
On en parlait effectivement, c'est la mauvaise opération pour le tenant du titre. Et puis en marge du Tour de France auquel il ne participe pas, Jérôme Pinot a annoncé sa retraite. Le coureur de 35 ans a notamment remporté une étape sur le Tour d'Italie 2010.
Et on en reparle avec Cyril Guimard, 18h20. Évidemment, comme tous les jours, le tennis et de l'émotion cet après-midi sur le gazon londonien de Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
Merci à tous ceux qui m'accompagnent, mon coach, ma mère, ma sœur, mes amis. Vous êtes toujours là pour me soutenir. Je vous aime tous tellement. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Alors vraiment, merci beaucoup.
Un extrait du discours effectivement de Serena Williams après son 21e titre du Grand Chelem aujourd'hui à Wimbledon. Eric Célio est sur place à Londres. Salut Eric.
Salut.
La numéro 1 mondiale donc qui a dominé assez nettement en finale Muguruza l'Espagnol qui n'a pas démérité quand même. Hein.
Non, ça n'a pas été un succès très très limpide, hein, un départ raté. Serena a été menée 4-2 après une demi-heure et beaucoup de peine à finir puisqu'elle a mené 5-1. Mais bon, l'essentiel est là, c'est un sixième Wimbledon étalé sur 14 années et le statut de gagnante la plus âgée de l'ère Open. Puis aussi, c'est la réussite de The Coach, comprenez Patrick Mouratoglou, de nationalité française. Quand Serena Williams l'a appelé au lendemain d'une piteuse défaite à Roland-Garros face à Virginie Razzano en 2012, était bloqué à 13 grands chelems à Wimbledon. Le couple célèbre au champagne son huitième majeur majeur. Le record de Steffi Graf est en très très grand danger. Si Serena ne relâche pas son investissement, et il n'y a pas de raison, elle pourrait égaler les 22 chelems de l'Allemande à Flushing Meadows, donc fin août, début septembre.
Eric, un mot également sur la finale homme qui se dispute demain. Quand on voit le niveau hier de Federer sur sa demi, on se dit que cette finale entre Federer et Djokovic, elle peut atteindre des sommets un dimanche.
C'est évident, parce que c'est Federer, depuis le début du tournoi, n'a perdu sa mise en jeu qu'une fois. Il a été éblouissant hier au service, et Andy Roddick, au micro de la BBC, a dit « Ce type a des stats totalement anormales pour son âge ». Donc si Federer aborde la finale en même disposition, même si on sait que Djokovic est un meilleur retourneur que Andy Murray, eh bien ça peut déboucher sur le même palmarès qu'en 2003, à savoir Serena et Roger.
Juste la victoire même, la rivalité, pour moi ça c'est tellement pas important. Après si c'est le 8e ou le 18e, franchement ici en tout, forcément c'est très sympa, mais c'est vraiment juste avoir cette sensation de la victoire ici à Wimbledon sur le gazon en fait. Et c'est pour ça que je joue au tennis toujours et je suis content que je me suis donné cette occasion là maintenant.
Voilà, Roger Federer à ton micro Eric, on te retrouvera tout à l'heure pour reparler de cette finale de demain. À tout à l'heure Eric, l'athlée, les championnats de France, rendez-vous important à un mois et demi des championnats du monde, Guillaume.
Oui, effectivement, on va retrouver à Villeneuve-d'Ascq François-Xavier de Châteaufort. Salut Fix.
Salut Guillaume.
Et on commence avec les demi-finales du 100 mètres qui viennent de s'achever et les patrons se nomment Christophe Lemaître et Jimmy Vico.
Oui, sans véritable surprise, avec un avantage à Jimmy Vico, là aussi sans surprise. Et Jimmy Vico qui remporte sa série tout à l'heure en 10 secondes 19 avec un vent défavorable, moins 0,6 mètres par seconde. Christophe Lemaître, lui, avait remporté la première série en 10-22, donc un petit peu plus que Vico, et avec un vent favorable cette fois-ci. Donc voilà, vous avez compris, Jimmy Vico a un avantage sur Christophe Lemaître avant la grande finale que l'on vivra à 18h35 précise. Tous les deux ont été vraiment très tranquilles dans leur série. Jimmy Vico encore même plus, il a vraiment déroulé sur les 30 derniers mètres avec une impressionnante facilité. Donc voilà, Vico, Jimmy Vico, le nouveau record d'Europe, co-recordman d'Europe du 100 mètres et favori, vu ce qu'on avait vu sur la demi-finale, favori de la grande finale de tout à l'heure.
FX, un mot également concernant les femmes sur la finale du 100 mètres S, c'était il y a quelques minutes et c'est une course qui a été remportée par celle qui était favorite, Cindy Billot.
Oui, Cindy Billot, la vice-championne d'Europe, qui l'a emportée en 12 secondes 90 centièmes, mais le moment le plus important pour elle, eh bien sûr ce titre de champion de France, mais c'était en demi-finale, en série si vous préférez, Cindy Billot qui avait remporté sa série en 12 secondes 84 centièmes, exactement le chrono qu'il fallait pour les minima, pour les mondiaux de Pékin. Ça fait quelques courses que Cindy Billot sentait qu'elle pouvait réaliser ses minima. Elle l'a fait ici, tant mieux. Elle est débarrassée de ça, comme ça elle n'aura pas à aller chercher donc la qualification pour les mondiaux de Pékin dans les derniers meetings comme Monaco ou meeting de Londres. Donc Cindy Billot qui a pleinement réussi sa journée aujourd'hui, le titre de championne de France une nouvelle fois et les minima pour les mondiaux de Pékin.
Merci Fix, on te retrouve dans 20 minutes pour la finale du 100 mètres.
Et on sera avec Marie Zévan GP, bien évidemment, pour suivre ce duel, le maître Vico.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Et comme tous les jours, on fait le point sur l'actualité des transferts aujourd'hui avec Damien Gossioso. Salut Damien.
Bonjour messieurs.
Ça a bougé pas mal aujourd'hui, notamment du côté de l'Angleterre.
Oui, Manchester United est en train de frapper fort avec l'arrivée de plus en plus probable de Bastian Schweinsteiger du côté d'Old Trafford. Le milieu de terrain allemand du Bayern Munich, capitaine de la sélection allemande, et le club anglais annonce avoir trouvé un accord cet après-midi. Manchester devrait par contre se séparer de son attaquant Robin Van Persie. Le néerlandais, arrivé d'Arsenal il y a 3 saisons, va s'engager avec le club turc de Fenerbahçe. En Angleterre, toujours Arsenal serait en train de préparer une offre pour Alexandre Lacazette. Cette semaine, son entraîneur à Lyon, Hubert Fournier, n'a pas complètement fermé la porte à un transfert du meilleur buteur de la Ligue 1 la saison passée. Chez le voisin de Lyon, Saint-Etienne, c'est Mevlut Erding qui pourrait quitter le club. Hanovre est en négociation avancée. À Monaco, enfin, l'attaquant espoir portugais Elder Costa arrive en prêt avant peut-être Stéphane El Shaarawy, l'international italien de l'AC Milan. Il devrait passer sa visite médicale en principauté dès lundi.
Merci Damien. Toutes les infos transferts à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Le rugby marque aussi l'équipe de France en préparation toujours très physique.
Oui, et avant de bénéficier d'un week-end de repos, les Bleus ont effectué un dernier entraînement ouvert au public ce samedi. Laurent Desprez, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu étais à l'entraînement ce matin, il faisait chaud, il y a eu du jeu, mais surtout beaucoup, beaucoup de monde.
Ouais, plus de 500, peut-être même 700 sur
supporters du 15 de France. Pas mal, hein, pour un samedi matin de départ en vacances. Des papas, des mamans, des tontons, des grands-parents, des enfants et des joueurs de rugby, comme Jean Ambroise, qui évolue à Arpajon. Alors, chaud et froid, quand il répond à la question, quel effet ils vous font, ces Bleus?
Bah, ils me font froid dans le dos un petit peu, quand même. Pourquoi? Bah, parce que je trouve que c'est une équipe assez magnifique. Et j'espère qu'en Coupe du Monde, ils vont aller très loin. On espère gagner la finale, quand même.
Alors c'est peut-être pas clair, donc on demande à Marc. Marc, lui, ne rate aucun match des Bleus depuis une vingtaine d'années.
Il y a un beau groupe, une belle équipe et un bel esprit. Il faudra sortir de la poule et puis passer l'écart. Ça va être difficile, mais après, je pense qu'on peut tout faire.
Deux heures durant, les favoris de ces centaines de supporters massés dans la tribune du stade de Marcoussis ont semé, joué et ravi ces amateurs de rugby ainsi que les plus jeunes. Alors qui est leur favori au plus jeune? Milo, 7 ans, lui, il a trouvé son nounours préféré.
Mathieu Bastaro, parce que il faut dans les matchs dans la mêlée. Et après des fois c'est marrant parce que il y a tout le monde qui plaque, ils n'arrivent pas à le plaquer. Du coup il est fort. J'aime bien Mathieu Bastaro.
Alors vous l'aurez compris, au moment de signer les autographes, le centre de Toulon n'était pas le moins demandé. D'ailleurs tous ont été supportés, fondus en un seul collectif, bien résumé par.
Allez les Bleus là, allez les Bleus.
Et le tout sous...
Heureux applaudissements. Merci Laurent, c'est un peu pour toi aussi. L'équipe de France de volley, actuellement en Bulgarie, le Final Four de la Ligue mondiale.
Ouais, les Bleus qui ont signé une 13e victoire consécutive hier en surclassant l'Argentine 3-7-0. Aujourd'hui, les partenaires d'Erwin Engapet pourraient remporter le Final Four. Ce sera contre la Bulgarie. En bref, en triathlon, le Français David Haus est devenu aujourd'hui à Genève champion d'Europe. À 31 ans, le Réunionnais succède à un autre Français, Frédéric Belaubre. Et puis en MotoGP, Marc Marquez partira en pole position au Grand Prix d'Allemagne. L'Espagnol a réalisé le meilleur temps des qualifs devant ses compatriotes Pedrosa et Lorenzo. A noter que le Français Zarco, lui, sera en pôle en Moto2.
Merci Guillaume, on te retrouve à 19h. Et des Français en pôle, on en a eu un aujourd'hui sur le Tour de France. Il a même gagné le Grand Prix du Mur de Bretagne, vainqueur de cette 8e étape du Tour de France, Alexis Vuillermoz. On en parle dans quelques instants avec Cyril Guimard. Vous avez le 32-16 aussi, appelez-nous. Ou alors le hashtag RMC Live.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
Et 18h20, l'Intégral Tour. On est ensemble jusqu'à 21h avec un programme très riche. Notez-le, 18h35, le duel Jimmy Vico face à Christophe Lemaître aux 100 mètres des championnats de France d'athlétisme. Et puis le Tour de France et un grand sourire pour les Français avec la victoire d'Alexis Vuillermoz après cette étape Rennes Mur de Bretagne. On en parle comme tous les soirs à cette heure-là avec Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Alors Cyril, Alexis Vuillermoz qui gagne et qui donne le sourire parce qu'il gagne avec la manière. Il a pris ses responsabilités alors que c'était Chris Froome qui donnait le rythme à 1 km de l'arrivée et il est parti.
Oui, il a été parfait. Il est sorti dans un premier compte. Enfin, il avait déjà accéléré une première fois. Il s'était parti à 3 et puis là, il avait déroulé. Il n'avait pas insisté. Au moment où Froome revient, emmenant toute la horde derrière lui, eh bien, il s'est recalé dans la roue de Froome. Il a attendu un moment et quand il a senti que ça pouvait être le bon moment, il s'est écarté sur la gauche. Il a mis un coup de gaz. Il est parti sans aucun problème. Apparemment, bien sûr, mais il va faire l'écart puisque Dan Martin sortira un peu trop tard, il viendra mourir à 6 secondes, mais le groupe Froome avec Peter Sagan entre autres qui lui voulait essayer d'aller chercher les bonifications et la victoire, eh bien il leur prendra 10 secondes en l'espace de 700 mètres. Il était au-dessus du lot et c'est quand même bien qu'on ait une première victoire française sur ce Tour de France. On attendait beaucoup des Français depuis le départ. Et enfin, on en a un qui arrive. Il avait déjà terminé, rappelons-le, troisième en haut de la côte de Huy. C'est un vrai spécialiste de ce type d'arrivée. Mais je l'avais dit à cette époque-là, Vuillermoz et Barguil, le Breton, seront les deux révélations de ce tour. Ça se confirme ici en Bretagne.
Et il y a un nom qu'il va falloir qu'on retienne aussi, c'est son surnom Pikachu, Alexis Vuillermoz. Si tu avais 30 secondes pour nous le présenter, ce garçon, tu nous dirais quoi, Cyril?
Bah, je suis pas certain que Pikachu ce soit le surnom le plus adéquat et le plus populaire. Je sais pas si ça correspond véritablement à sa personnalité, puisque vous me demandez de le présenter.
Il dit qu'on l'appelle comme ça à cause de ses attaques éclairs.
Oui, peut-être, mais bah, tant mieux. Mais il faut. Enfin bon, je l'aime pas ce surnom, mais d'accord. Je connais pas non plus le personnage. Vous savez, un surnom, ça vous colle à la peau et c'est pas toujours très valorisant. Regardez par exemple Merckx, on l'appelle le cannibale. Le cannibale, c'est pas terrible hein, comme surnom. Je préfère Poupou quand même. Hein. Robic, c'était le biquet. Enfin, peu importe. C'est pas moi qui fera la différence sur le surnom qu'il doit avoir et s'il doit en avoir un. Mais ses qualités, il les a acquises. Depuis son plus jeune âge, dans les épreuves de VTT, où effectivement dans ces épreuves de VTT, on est confronté sur l'ensemble des parcours et en règle générale à des passages très pentus, des passages très raides et où il faut de la puissance, il faut de la force et bien sûr il faut aussi une très belle VO de Mike parce qu'il faut enchaîner derrière et l'école du VTT est quand même une école excellente pour le cyclisme. Perrault, deuxième du tour l'an dernier, il arrive aussi du VTT et puis il y en a un autre qui arrive du VTT aussi et qui a gagné le Tour de France, c'est Cadel Evans. Et Cadel Evans, il avait gagné où ? Il y a 4 ans, ici même, oui. À Mur de Bretagne, en battant Contador, il gagnait le Tour de France après. Attendez, ne me faites pas dire que Villermoz va gagner le Tour de France, s'il vous plaît, non ?
C'est toujours bon signe, en tout cas.
Mais si vous êtes capable de gagner en haut de Mur de Bretagne, de terminer troisième dans le Mur de Huy et sixième de la Flèche Wallonne, qui se terminait dans le même Mur de Huy, ça veut dire qu'on a quand même un gros, gros potentiel. Et aujourd'hui, je pense qu'il est parfaitement adapté aux compétitions cyclistes au plus haut niveau, y compris celle du Tour de France. Donc à partir de ce moment-là, il est voué quand même à se faire un beau petit palmarès et une place au soleil.
Et quand on voit devant qui il s'impose aujourd'hui, Daniel Martin, l'Irlandais, deuxième à 5 secondes. Et puis le peloton de tous les favoris réglé par Valverde à 10 secondes. Peter Sagan, Tony Galopin, il y avait du beau monde. Il y a juste Nibali qui a laissé filer quelques secondes, Cyril. Comment l'expliquer ? Il a perdu 5 secondes sur le groupe là.
Comment l'expliquer ? Je n'ai pas l'explication. On se rappelle qu'il y a 48 heures, il avait été victime de cette chute provoquée et malheureusement à son insu sur une faute un petit peu de concentration de Tony Martin, qui avait envoyé par terre Barguil, qui avait envoyé par terre Nibali. Froome avait failli y aller. Alors, est-ce les conséquences de sa chute ? Car si Nibali est sorti à la pédale dans cette ascension, ça veut dire qu'il est plus dans le coup pour le tour. Un favori du tour ne peut pas se faire lâcher sur une côte de 2 km, même si c'est Mur de Bretagne. Il peut pas se faire lâcher alors qu'il y a qu'un seul kilomètre à 10% et que le reste passe de 8, 6, 4 et on finit pratiquement sur un faux plat. Il peut pas se faire lâcher sans problème. Il peut pas se faire lâcher la pédale. Et si c'est le cas, je pense qu'il est peut-être. Si c'est le cas, il va disparaître des pour lui d'avoir la possibilité, ouais, de gagner le tour. Il disparaît des favoris.
On en saura plus en tout cas mardi, hein, avec l'arrivée en altitude. Cyril, demain contre la montre par équipe, moment important aussi, 28 km entre Vannes et Plumelec. Est-ce qu'on peut avoir une différence entre les meilleurs en général par rapport à leurs équipes?
Ben vous savez, c'est difficile de faire un pronostic sur cette épreuve parce que toutes les équipes ont plus ou moins été touchées par les chutes, donc ils ont des coureurs qui ne sont pas à 100%. En plus, attendez, on aura plus d'une semaine de course, ce qui veut dire qu'il y a depuis le départ, on va dire, des turbos qui se sont réglés et d'autres qui se sont peut-être un petit peu déréglés. Il n'y a pas eu d'étape de repos, donc il est difficile de faire un pronostic. Il peut y avoir de gros écarts. Imaginons que l'un des leaders, et ça peut être le cas d'ailleurs pour Nibali, imaginons que Nibali ne soit pas très bien et son équipe Astana, eh ben elle risque d'être obligée de rouler en sous-régime pour qu'il ne saute pas. N'oublions pas qu'on finit en haut de la côte de Cadoudal, une côte qui est à peu près similaire à celle où nous sommes arrivés ce soir. Elle fait pratiquement la même distance et avec un pourcentage qui est supérieur à 7%. Dans un contre-la-montre par équipe, si votre leader il est un petit peu court, rien que sur cette ascension, ça peut être 30 secondes qui tombent. Donc s'il va y avoir un grand suspense, c'est beaucoup d'interrogations de maintenant jusqu'à l'arrivée demain par rapport au classement général. mais il peut y avoir des coureurs qui perdent du temps. Peut-être Nibali, je viens de le dire. Peut-être Quintana. Peut-être Froome, encore qu'il semble que son équipe soit celle qui ait le moins souffert depuis le début de ce Tour de France.
Merci Cyril, on te retrouve 19h avec toute la Dream Team du côté de Mur de Bretagne. Et on reviendra bien sûr sur cette belle victoire française pour cette 8e étape du Tour remportée par le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, Alexis Wiermoz. Attention, dans quelques instants, on part à Villeneuve-d'Ascq. Vous êtes plutôt Jimmy Vico ou Christophe Lemaître. Eux vont régler ça sur 100 mètres au championnat de France.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h32 sur RMC, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du duel sur 100 mètres, affrontement direct entre Jimmy Vico et Christophe Lemaître au championnat de France d'athlétisme du côté de Villeneuve-d'Ascq. On est avec Maryse Evangépé. Bonsoir Maryse.
Bonsoir.
Et François-Xavier de Châteaufort. Bonsoir Fix.
Salut Martial, bonsoir Maryse.
Salut Fix.
Fix, déjà, les deux garçons qui, il y a quelques minutes, se sont affrontés indirectement par demi-finale. Et ça a donné quoi?
Ça a donné que Jimmy Vico a remporté sa série en 10 secondes 19 avec un vent défavorable. Et Christophe Lemaître a remporté sa série en 10 secondes 22 avec un vent favorable. Donc, vous voyez déjà, on a une petite tendance de ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait, car tout est remis à zéro dans cette finale. Lemaître sera au couloir numéro 4, Vico au couloir numéro 6, Maryse.
C'est quoi la tendance pour toi, Maryse, justement?
La tendance, c'est qu'il n'y a pas vraiment de duel cette année, étant donné que Jimmy Vico, normalement, est largement devant et qu'on était plus inquiet pour l'état physique de Christophe Lemaître. Est-ce qu'on a pu avoir, je suppose qu'ils ne se sont pas arrêtés avec juste une heure d'écart, mais peut-être aller pêcher du côté de l'entraîneur pour savoir si tout allait bien physiquement pour Christophe Lemaître?
Pour l'instant, ça va. Alors, pour l'instant, il y a toujours une incertitude pour Christophe Lemaître sur le 200 demain, puisqu'il y a le 200 mètres, série et finale directe. Si ça se passe bien aujourd'hui, si ça se passe bien lors de la finale là, dans quelques instants, Christophe fera le 200 mètres. S'il y a un petit couac ou une petite gêne ou quoi, il ne fera pas de 200.
Jusqu'ici, tout va bien, on va dire. Alors effectivement, encore une fois, on ne peut pas parler de duel si on regarde les performances, parce qu'entre un 5e mondial et un garçon qui n'est pas dans les 30 meilleurs mondiaux, on dit qu'il n'y a pas de duel. Mais attention, Jimmy Vico peut être un peu fatigué parce qu'il a beaucoup couru, ce qui n'est pas le cas de Christophe qui a très peu couru cette saison. Ce sera son 4e 100 mètres. Christophe qui a été 4 fois champion de France, c'est un battant lui aussi. Il n'aime pas perdre, il l'a gagné en 2010, 2011, 2012 et 2014. Jimmy Vico, lui, l'a emporté en 2013. Et il mène 2-1 dans un face-à-face direct, puisque un coup c'était l'un qui était blessé, un coup c'était l'autre. Là, on les retrouve tous les deux. C'est vrai qu'il va y avoir un match dans le match avec, attention, un arbitre qui peut venir à côté sans qu'on le voit, avec Emmanuel 3. Biron. Ouais. Emmanuel Biron qui a fait une très jolie perf, un 10-18, son record personnel, c'était au meeting à Reva. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dans cette course, c'est presque une course d'école, parce que je regardais un petit peu les engagés. On a 3 élèves de Guillaume Tanon avec Pierre Vincent, Emmanuel Biron et Jimmy Vico. Et puis on peut même y ajouter Yannick Fonsa qui avait travaillé, il fut un temps avec Guillaume Tanon aussi, qui est un spécialiste du 400 mètres. Et puis on a 2 élèves de Dimitri Desmonnières, Abdoulaye Ndia et Yannick Fonsa. Et puis au milieu, on a le petit outsider, mais quel outsider, triple champion d'Europe, c'est Christophe Lemaître.
Et juste fixe pour Christophe Lemaître, il y a aussi un autre enjeu au-delà de la victoire, c'est qu'il court aussi après les minima sur 100 mètres.
Effectivement, les minima qu'on va bien sûr
essayer pour les championnats du monde.
Jimmy les a fait, lui bien sûr les minima, vous l'avez compris, avec son record d'Europe, et c'est à 10,09.
Ils sont très élevés. C'est vrai que ce sont des minima très relevés. Et j'ai l'impression qu'il y a encore une petite composante, c'est que le vent a l'air bien capricieux.
Oui, un coup c'est défavorable. On l'a vu sur les séries du 100 mètres. Pour Jimmy c'était défavorable et pour Christophe favorable. Donc là, ça serait bien qu'il soit favorable pour cette finale. Comme ça pourrait aider Christophe Lemaître à réaliser ses fameux minima. Donc on le rappelle, fixé à 10 secondes et 9 centièmes précisément.
Alors c'est vrai que ça met toujours beaucoup de tension parce que il faut qu'il y ait un vent favorable. Mais pas trop, parce que si on dépasse les 2 mètres et que le chrono est réalisé, ça ne compte pas pour se qualifier. Ensuite, effectivement, j'imagine que l'un comme l'autre n'ont pas envie de céder aux copains à la médaille d'or malgré tout. Donc ça risque de mettre énormément de tension dans 100 mètres, qui a déjà connu quelques petites péripéties en série, fixe.
Ah oui, dans la première série, il y a eu 2 faux départs dans la course de Christophe Lemaître, justement.
C'est la faute du starter, fixe.
Alors là, la première, effectivement, le starter l'a pris à son compte, il n'y a pas eu d'éliminé. Et en revanche, le deuxième faux départ, eh bien, il y a eu un éliminé dans la série. arrivée, c'était juste couloir à côté de Christophe Lemaître. Mais bon, Christophe Lemaître et les autres après se sont pas décontenancés, ont disputé leur série malgré donc cette course un peu perturbée donc par les deux faux départs précédents.
Les deux garçons sont sur la piste, enfin les huit garçons
ils vont être présentés, ils vont être présentés dans quelques instants. On a pris un peu de retard sur le programme, notamment à cause des deux faux départs du 100 mètres en série tout à l'heure.
Peut-être que tu peux nous rappeler rapidement le 100 mètres haie tout à l'heure chez les filles avec des minima qui ont été faits aussi.
Cindy Biot en série qui a remporté sa course en 12,83. Il fallait faire 12,84 pour assurer les minima pour Pékin. Elle l'avait pas encore fait jusqu'à présent cette saison. Eh bien, c'est chose faite et mission et double mission accomplie pour Cindy Biot puisque tout à l'heure, elle a remporté également la finale. Nouvelle fois, Cindy Biot, championne de France du 100 mètres haie, donc avec les minima pour Pékin. C'est un samedi bien rempli et réussi pour la vice-championne d'Europe du 100 mètres haie.
On peut peut-être en profiter aussi juste avant cette course pour rappeler que du côté des championnats d'Europe des moins de 23 ans, les sprinteurs se sont illustrés. Il y en a deux qui manquent ici à ces championnats de France, c'est Stella Akakpo chez les filles et Guy Elfajanouman chez les garçons. Et tous les deux ont été médaillés, médaille de bronze sur 100 mètres. Donc si ça peut inspirer nos grands sprinteurs qui sont présentés là au public.
Ça pourrait être très très sympa. En tout cas, là, voilà, ça y est, la présentation a commencé avec Ben Basso à l'instant qui salue le public. Et vous allez entendre le tonnerre d'applaudissements, ce fut le cas tout à l'heure en série pour Jimmy Vico. On parlait de la popularité justement de Jimmy Vico. Eh bien, il a gagné en popularité.
1,86, ça vous change la popularité.
Effectivement. Mais bon, voilà, il y a match nul pour l'instant la popularité entre Christophe Lemaître à l'applaudimètre, entre Christophe Lemaître et Jimmy Vico sur la piste. Eh bien, il y aura forcément un vainqueur. Il y aura pas de match nul. Donc, même si ça doit se jouer au millième, il y aura forcément un vainqueur. Et on aura la réponse dans quelques instants.
Allez, on va quand même donner le nom des concurrents.
Oui, bien sûr.
Avec Vincent Fierro, couloir numéro 1, donc l'élève de Guillaume Tanon qui a couru en 10,52 cette saison. Béranger Marbos au couloir numéro 2, le sociétaire de Reims qui a couru en 10,51 cette saison. Emmanuel Biron sera au couloir numéro 3 et lui c'est du sérieux cette saison puisque 10,18 réalisé récemment. Christophe Lemaître donc au 4, Ben Basso au 5, Jimmy Vico au 6, Abdoulaye Ndiaye au 7 et Yannick Fonsa au couloir numéro 8 à l'extérieur.
Allez, le silence se fait ici au stade Nord de Lille Métropole pour cette finale du 100 mètres ici à Villeneuve-d'Ascq, finale des championnats de France avec Jimmy Vico au couloir 6, Christophe Lemaître au couloir numéro 4, les 8 finalistes concentrés comme jamais. C'est parti pour tout le monde, passe au départ avec Christophe Lemaître qui prend un départ correct, mais Jimmy Vico qui met le booster d'entrée, Jimmy Vico qui s'envole vers la victoire, Christophe Lemaître qui essaie de l'accrocher, mais Jimmy va l'emporter en 9,93 avec un vent favorable de plus 0,7 mètres par seconde. Une nouvelle fois un chrono retentissant pour Jimmy Vico. 9,92, Christophe Lemaître 10,07, il fait les minima pour Pékin.
Mais tu as dit un vent de 7 mètres secondes.
Non, plus 0,7. Plus
0,7.
C'est homologué. Et Christophe Lemaître qui fait les minima. 10,07 pour Christophe Lemaître. Jimmy Vico qui a été vraiment devant.
9,92.
C'était l'ancien record de France de Christophe Lemaître jusqu'à samedi dernier. Eh bien, Jimmy Vico qui confirme quand même la belle prestation, le beau record d'Europe qu'il nous a offert samedi dernier.
En gros, c'est le deuxième chrono de sa carrière.
Exactement.
Tout à fait, mais je crois qu'il faut souligner qu'il y a eu vraiment, tu vois, on pensait qu'il n'y aurait pas de duel. Il a quand même eu lieu parce que Christophe Lemaître est un grand champion. Parce que revenir en 10,07, donc ce chrono, il ne l'avait pas fait depuis deux saisons, je crois. C'est son meilleur chrono depuis deux saisons, depuis 2013, si je ne m'abuse, même 2012 d'ailleurs, je vais vérifier ça dans les conditions normales. Et il y a eu vraiment une vraie bataille. Et puis surtout, la bonne nouvelle, Fix, c'est qu'apparemment, il n'y a plus de blessés.
Ouais, ça va, ça déroule.
D'aucun côté, ni du côté de Jimmy Vico, ni du côté de Christophe Lemaître.
Très, très bon augure. Les amis, je descends en zone mix. Je vous laisse.
Vas-y vite, tu as 9 secondes.
On se retrouve tout à l'heure
pour y aller.
C'est parti.
À tout de suite.
Allez, c'est parti.
18h40 sur RMC, on va se remettre de nos émotions très vite. Donc, champion de France, 9,92 sur 100 mètres. Jimmy Vico, on va sans doute l'écouter dans quelques instants avec François-Xavier de Châteaufort.
RMC, Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h43 sur RMC, quelle journée pour le sport français, victoire d'étape avec Alexis Vuillermoz sur le Tour de France du côté de Mur de Bretagne. Vuillermoz qui s'est imposé tout à l'heure devant l'Irlandais Daniel Martin et l'Espagnol Alejandro Valverde. Chris Froome toujours maillot jaune, on en parlera bien sûr avec toute notre Dream Team à partir de 19h. Et puis un Jimmy Vico qui vient de s'imposer sur 100 mètres au championnat de France en 9 secondes 92 centièmes même devant Christophe Lemaître qui lui avec 10.07 réalise les minima. Et puis le troisième, Emmanuel Biron, qui confirme un peu sa belle performance de la semaine dernière au Stade de France puisqu'il fait 10.20 troisième. Donc c'est aussi bon signe pour le relais.
Ah oui.
François-Xavier de Châteaufort, toujours du côté de Villeneuve-d'Ascq. On va avoir Jimmy Vico avec nous quelques instants. Et Maryse Evan GP, quelle course hein.
Oui, c'était une course magnifique. Effectivement, un très beau trio qui annonce un relais formidable. Mais si on revient sur les individus, eh bien Jimmy Vico confirme son statut. C'est la troisième fois cette saison qu'il descend sous les 10 secondes. Et sa performance de 9,92. Alors, je sais que les gens s'habituent très vite aux grosses performances. Vrai. Mais ça représente quand même, là encore, non seulement sa deuxième performance tout le temps, bien sûr, mais la dixième meilleure performance mondiale de la saison. Donc, c'est vraiment réalisé et classé ce garçon qui a visiblement passé un cap énorme. On l'a vu très très appliqué, pas encore le meilleur départ du monde. On a même vu Christophe Lemaître pour une fois jaillir des blocs de façon assez surprenante devant Jimmy, en tout cas sur l'angle qu'on nous donnait sur la télévision. Mais on l'a vu très appliqué, regarder le sol longtemps, pas du tout crispé, très relâché. On avait l'impression qu'il récitait sa pige et l'a récité en 9,92. Franchement, c'est impressionnant. Et puis de l'autre côté, ça fait très très plaisir de retrouver Christophe Lemaître en 10,07, puisque comme je le disais, depuis 2013, il n'avait pas couru aussi vite. Chiffres, oui, j'ai retrouvé mes chiffres. Alors, on avait un 9,98 en 2013, sauf que c'était avec trop de vent, et sinon, c'était 10 secondes tout rond, le 11 août, réalisé à Moscou, d'ailleurs, pendant les championnats du monde, et on sait que Christophe est un garçon de championnat, donc la bonne nouvelle, ça n'est même pas le fait qu'il court en 10,07, c'est qu'il s'est vraiment battu sur cette course, et surtout, ça veut dire qu'il n'est plus blessé.
Et tu sais ce que c'est la bonne nouvelle pour moi, Marie, c'est que demain, il y a un 200.
Oui, et ça
va être pas mal aussi.
Parce... C'est d'autant plus intéressant que cette saison, Christophe Lemaître avait fait une rentrée qui était la rentrée la plus rapide qu'il n'ait jamais fait sur le 200 mètres avant d'être en petite délicatesse avec sa cuisse. Alors on espère évidemment que le 100 mètres, il ne se sera pas employé un peu trop et que ça lui permettra de faire le 200. Logiquement, il devrait se rapprocher de la ligne symbolique des 20 secondes aux 200 mètres et voire même, pourquoi pas, avoir un chrono sous les 20 secondes, sauf si évidemment le vent est complètement capricieux demain. Et on se souvient qu'avec ses 19,80 records de France, il avait décroché une médaille mondiale, parce que beaucoup de personnes l'oublient. On a tendance à l'enterrer un peu, à comparer un peu entre Jimmy Vico et à dire maintenant le maître vaut plus rien et puis c'est Vico qui est là. Mais je crois qu'on tient.
Le maître a des titres de champion d'Europe et une médaille mondiale.
Oui. Et on tient deux garçons exceptionnels, surtout qui vont tirer tout le groupe vers le haut. On le voit encore. J'insiste sur Emmanuel Biron parce que sa performance est remarquable, 10-20. On le voit aussi du côté des championnats d'Europe des moins de 23 ans avec Guilfay Janouman, encore un élève de Guy Antanon, qui monte sur le podium, qui lui aussi petit à petit tombe ses chronos, et on se rend compte que le sprint français commence à avoir une fière allure qu'on ne lui avait pas vue depuis très 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 longtemps.
Fix, tu es toujours avec nous, tu guettes les deux sprinteurs, là, Jimmy Vico et Christophe Lemaître, ils sont loin de toi.
Tout à fait, pour l'instant on les voit pas, ils sont pas à portée de vue. Il y a en revanche Pierre Carraz, l'entraîneur de Christophe Lemaître, qui est pas très très loin de nous, peut-être qu'il va nous faire un petit coucou dans quelques instants. Ça sera peut-être la surprise tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, il répond à quelques confrères. Pour les réactions, ça va pas trop tarder, mais faut être patient.
Fix, on parlait avec Maryse du 200 mètres de demain. Et demain aussi, l'enjeu pour Jimmy Vico, lui, c'est de faire les minima sur 200, parce qu'il les a pas encore fait cette saison.
Oui, effectivement. Bon, vu ce qu'il a réalisé, Jimmy, encore une nouvelle fois en finale du 100 mètres, les minima sur 200 devraient être à sa portée.
Il pourrait même challenger Christophe sur sa distance fétiche. Hein. Il va y avoir encore une fois un sacré duel entre les deux.
Voilà. Bon, après, il faut que les conditions météo soient au rendez-vous, parce qu'on n'annonce pas forcément le même temps demain qu'aujourd'hui. Un temps plus couvert. On espère qu'il pleuvra pas. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est aussi simple que ça. Mais si le temps reste sec, ça devrait le faire pour Jimmy normalement pour les minima sur 200. Apparemment, vu ce qu'il nous a fait en 100 mètres, il n'y a pas de gêne physique, tout va bien. On l'a retrouvé comme au Stade de France samedi dernier, donc tous les feux sont au vert pour l'instant. Enfin, on va écouter sa réaction dans quelques instants, mais franchement, on est confiant.
Fix, tu nous tiens au courant. Dès que tu as Jimmy Vico ou Christophe Lemaître avec toi, on vient te voir tout de suite. On va juste aller faire un petit tour du côté de Londres.
RMC Wimbledon 2015.
Et on va retrouver Eric Salio. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Alors Eric, on a eu une fille qui est entrée un peu plus dans la légende aujourd'hui, Serena Williams, qui a battu l'Espagnol Gabriele Muguruza 6-4, 6-4.
Oh, mon Dieu.
Oui, bon, j'ai pas l'accent vénézuélien parce qu'elle vient du Venezuela quand même au début, faut pas oublier. Mais Serena, ça n'a pas été si simple, hein.
Non, 6-4, 6-4, mais on retiendra qu'elle a été menée 4-2. Mauvais début de match avec pas mal de doubles fautes, de la crispation, les émotions, parce que mine de rien, elle a beau avoir 33 ans, elle connaissait l'enjeu de ce match, elle pouvait se rapprocher de Steffi Graf, et au deuxième, elle s'est détachée 5-1, et là encore, elle a eu de la peine à conclure, mais au final, c'est une victoire logique face à une joueuse dont on reparlera, mais qui manquait un peu d'expérience et d'accoutumance au gazon, donc 6-4, 6-4. Rien à dire, et on peut peut-être écouter son coach Patrick Mouratoglou qui évidemment évoque une énorme championne.
En l'occurrence, c'est une grande championne qui aime remporter les tournois du Grand Chelem, qui aime être numéro 1 mondial et qui n'a pas envie que ça s'arrête, donc elle fait ce qu'il faut pour que ça continue. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Rien. Elle peut parfois trébucher, ça lui est arrivé, ça peut lui arriver encore, mais l'arrêter, je pense que ça va être compliqué quand même. Parce qu'elle n'a pas envie que ça s'arrête et que, compte tenu de ses qualités de championne et du niveau de tennis qu'elle joue, elle va continuer à gagner. Après, elle ne gagnera pas à chaque fois, mais elle va continuer à gagner.
Voilà, son entraîneur, Patrick Mouratoglou. Eric, je vais juste donner des chiffres, parce qu'on dit 21 titres du Grand Chelem. Bon, ça paraît impressionnant, mais si on les détaille, ça fait 6 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 6 US Open. Ça vous marque une carrière, ça, quand même. Et le Grand Chelem, toi, mouille-toi un peu, Eric, l'US Open, possible.
Ah, voilà, ça va être un Grand Chelem super excitant, parce qu'il y a deux choses à aller chercher. D'abord, le Grand Chelem calendaire, qu'elle n'a jamais réalisé, donc les 4 à la file la même année. Et puis, aller égaler Steffi Graf, qui, avec 22 Grand Chelem, mène la danse. Mais là, Steffi Graf, si elle regarde dans son rétro, Ian Williams derrière elle, et elle fonce. Hein.
C'est vrai que ça paraît incroyable. Alors, on s'est régalé aujourd'hui, Eric, et on pense qu'on va se régaler demain, le numéro 1 face au numéro 2 mondial. Juste, Eric, on a Christophe Lemaître, deuxième du 100 mètres, avec François-Xavier de Châteaufort au championnat de France à Villeneuve-d'Ascq.
Ouais, ça fait plaisir de retrouver des vraies sensations de vitesse en compétition. C'est vrai que c'est ce qui me manquait un peu. Donc là, mais c'est vrai que pendant la course, j'ai senti que voilà, tout se remettait en place progressivement. Je pense qu'il y a encore de la marge parce que bon, j'ai pas fait de vraies séances de sprint depuis ma blessure en Russie. Je crois que la seule vieille veste est juste une avant de partir. Donc je pense qu'il y a mieux comme condition pour préparer le championnat de France. Donc ça prouve qu'il y a encore de la marge. Et peut-être avec. Peut-être que si j'aurais pas eu ce petit temps d'arrêt, peut-être ça peut aller encore plus vite. Combien, je sais pas, mais ça, je pense que ça aurait déjà été de meilleures conditions de préparation avant ces France, quoi.
J'ai l'impression que c'est pour début
de saison, presque. Pas loin, quand même, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas pu faire les courses que je voulais, parce que c'est vrai que j'étais encore en phase où j'avais posé des questions, j'essayais de tester des trucs, alors qu'en fait, moi, ce qui me va, c'est foncer, faire réfléchir bêtement et faire ma course naturellement, et voilà, ça marche. Donc et là j'ai exactement mis ça en application, concentré sur moi-même, et voilà, ça suffit à ce que ça course qu'il fallait, quoi.
Voilà, Christophe Lemaître, deuxième des championnats de France, 10 secondes et 7 centièmes, donc il réalise les minima, et c'est Jimmy Vico qui s'impose en 9 secondes 92 centièmes. Jimmy Vico qui sera dans quelques instants, on l'espère, au micro de fixe de Châteaufort du côté de Villeneuve-d'Ascq. Eric, on revient donc à cette finale demain, le numéro 1 mondial contre le numéro 2, Djokovic, Federer. Tout Londres attend ça, j'imagine.
Ouais, c'est
même s'ils attendaient Murray, mais
ouais, moi je suis non, mais après ce qu'on a vu hier, ça s'annonce explosif, parce que Federer a joué à un niveau auquel on ne l'attendait peut-être plus, et je l'ai dit mais je le répète, Roddick a une phrase fantastique, ce type a des statistiques anormales pour son âge, et c'est vrai qu'au service hier il a été carrément éblouissant.
Pour son âge ou pas pour son âge, hein, d'ailleurs.
Ouais, absolument. Non, mais ça fait longtemps qu'il a pas gagné le Grand Chelem, donc
2012, hein, c'est ça, pour Federer.
On essaie de dire qu'il décline, mais là, il a l'occasion de mettre tout le monde d'accord face à un garçon qu'il n'apprécie guère. Donc, ça rajoute du piment à ce match. C'est seulement la troisième fois qu'ils vont se jouer en finale de Chelem. Hein, il n'y a pas beaucoup de vécu entre eux, mais lors des 39 derniers matchs, il y a eu des monuments de tennis. Donc, on s'attend à un match fantastique, à l'image de la finale de l'an dernier où Federer était revenu à deux manches partout et malheureusement, il avait coincé dans le cinquième et il s'était incliné 6-4 au cinquième set face aux Serbes. Voilà. Donc, moi, je signe pour un petit 5-7. Hein.
Voilà, ben, c'est ce qu'on souhaite aussi. On va se régaler comme ça demain après-midi, évidemment, sur RMC.
Je t'ajoute un petit truc, petite info. Les Bleus ont tapé leur première balle sur le gazon du Queens.
Les Bleus, voilà, pour la quart pour de la finale Coupe Davis.
On va en parler abondamment, ouais, la semaine prochaine.
Exactement.
Sans Richard Gasquet qui est rentré à Paris, il a le droit, oui, de couper un peu.
Un petit peu de rame quand même. Et sinon, Gilles Simon est déjà là, lui aussi.
Oui, oui.
Ouais, bon, très bien. Et ben voilà, ils sont au boulot.
Et ah, Gilles, je suis pas sûr, attends, non, je vérifie.
Ouais. Peut-être qu'il a eu aussi quelques jours.
Il y avait Nico Mahut, Pierre Hugerbert, Joe Tsonga. Oui, Gilles, je l'ai pas vu, je crois, sur les vidéos de la Fédération française.
Ouais, il va peut-être revenir lui aussi en même temps que Richard, en tout cas. Voilà, ils ont encore quelques jours, puis ils sont réglés sur Herbin de toute façon. Donc maintenant, ça nous promet un bel affrontement la semaine prochaine. Merci beaucoup Eric, on te retrouve demain après-midi, bien sûr, pour cette finale Djokovic-Federer. Maryse, on reviendra bien sûr tout au long de la soirée sur cette belle perf, 9 secondes 92 pour Jimmy Vico. Et donc un 200 demain où on va se régaler.
Voilà, un 200 où on va retrouver les mêmes, on remet tout ça dans la balance et puis on recommence. Et ça va être très intéressant de le voir sur 200 mètres parce que ça va nous montrer un petit peu l'étendue des progrès de Jimmy Vico et puis l'étendue de la récupération de Christophe Lemaitre. Juste un dernier petit mot, c'est l'occasion peut-être, mais je pense que Fix en a peut-être déjà parlé hier, de saluer un autre grand Français qui prend sa retraite à l'issue de ces championnats de France, Ronald Pognon, qui a été tout simplement le premier Français sous les 10 secondes. Il avait 23 ans et il avait couru en 9 secondes 99 centièmes. On retient de lui également un record d'Europe en salle avec 6 secondes 45 centièmes sur 60 mètres, qui depuis a évolué bien sûr. Et voilà, moi je tenais à le saluer parce que d'abord c'est un super gars qui était encore médaillé des Jeux Olympiques avec le 4x100 français et qui a ouvert la voie à ces garçons qu'on voit aujourd'hui débouler comme des avions.
Et oui, il y a 10 ans, c'était le premier français en moins de 10 secondes. C'était en juillet 2005 du côté de Lausanne et tu le disais Maryse, on s'habitue très vite, oui, aux Français qui courent vite et on s'habitue aussi aux Français qui gagnent sur le Tour de France avec la 8e étape gagnée par Alexis Vuillermoz et Christophe Cessieux. Eh ben, il a le sourire ce soir.
Et bien sûr, évidemment, comme tous les passionnés de vélo et tous les passionnés de vélo français, évidemment, première victoire d'étape pour un Français dans ce Tour de France. C'est vrai que jusque-là, on n'avait pas vraiment été servi par nos Français qui étaient pas vraiment au top. Mais là, ça y est, c'est reparti et le vrai Tour de France va commencer, évidemment, vous le savez, à partir de mardi avec l'arrivée en montagne, même si on s'est régalé durant ces premiers jours et on s'est encore plus régalé aujourd'hui avec cette ascension de mur de Bretagne, Vuillermoz qui s'impose. Vuillermoz doit-il devenir le leader de la formation à G2R en haute montagne? Ce sera le thème de l'un de nos débats juste après les infos de 19h. L'intégral tour revient avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon juste après 19h.